À la une, Frédéric Couteau, l'Europe hausse le ton face à la Russie.
Oui, et surprise, c'est le chancelier allemand Friedrich Merz qui est à la manœuvre. C'est ce que constate le Figaro à Paris. Les alliés occidentaux ne fixent plus de limitations à la portée des armes qu'ils envoient à l'Ukraine. Par cette déclaration, le chancelier allemand ouvre un nouveau chapitre du soutien militaire européen à Kiev. Et ceci au moment où la position de Washington à l'égard du conflit reste des plus nébuleuses et où la Russie intensifie ses attaques nocturnes sur le territoire de son voisin. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie, ce qu'elle ne faisait pas il y a quelque temps, à quelques exceptions près. Elle peut le faire maintenant, a donc déclaré hier le dirigeant allemand. Commentaire de Die Welt à Berlin, soudainement l'Allemagne apparaît comme un pays qui veut montrer la voie en matière de politique de sécurité en Europe et qui, si nécessaire, prendra de nouvelles décisions concernant le soutien à l'Ukraine en alliance avec la Grande-Bretagne, la Pologne et la France. L'Allemagne, décrite il y a peu comme faible et en crise par le chef de l'opposition d'alors, Friedrich Merz, est maintenant perçu par le même Friedrich Merz, désormais chancelier, comme un pays pilier de la sécurité européenne.
L'Ukraine pourrait donc utiliser des armes fournies par ses alliés européens pour frapper la Russie en profondeur.
Le conditionnel reste de rigueur pour Le Monde à Paris. Aucun des pays concernés n'a pour l'instant confirmé cette évolution de la doctrine militaire qui aurait des conséquences potentielles importantes pour la suite du conflit. Friedrich Merz n'a pas spécifié si ses propos auraient une incidence sur les armes livrées à l'avenir par Berlin à l'Ukraine, en particulier concernant les missiles de longue portée Taurus. Avant son entrée en fonction début mai, rappelle Le Monde, il s'était dit favorable à la livraison de ces missiles d'une portée de plus de 500 km, permettant donc d'atteindre le territoire russe en profondeur. Mais depuis, il s'est montré plus ambigu, soulignant qu'il ne détaillerait plus les armes qu'il enverrait à l'Ukraine pour des raisons stratégiques, et ce, afin de ne pas en informer Moscou.
En attendant une éventuelle fourniture à l'Ukraine de ces missiles longue portée, il faut accentuer la pression sur la Russie sur le plan économique.
C'est du moins ce que préconise le Times à Londres. Puisque Vladimir Poutine ne semble voir aucun avantage à mettre fin au combat, la seule façon envisageable de l'amener à la table des négociations est d'exercer une pression croissante et ciblée sur Moscou. Si Donald Trump croit encore en sa mission de médiation, il doit à la fois élargir et renforcer les sanctions financières et les interdictions de voyager contre les responsables du Kremlin, les dirigeants du secteur bancaire et du secteur de l'énergie. Surtout, il doit les affiner de manière à ce que l'économie russe souffre plutôt qu'elle ne profite de la poursuite de la guerre. Déjà un premier pas, note le Times, le Sénat américain doit examiner cette semaine un projet de loi sur les sanctions secondaires pour punir les pays qui achètent du pétrole et du gaz russe. Au cours des trois dernières années, des flottes fantômes échappant aux sanctions ont en effet contribué à générer les fonds nécessaires au maintien de l'armée russe. Ces profiteurs pourraient donc bientôt être touchés, perdant leur marché aux États-Unis et dans une grande partie du reste du monde.
À la une également, la situation humanitaire catastrophique à Gaza.
Gaza, injustifiable, titre Libération en première page. Libération qui publie une tribune signée par 300 écrivains, parmi lesquels plusieurs prix Goncourt ainsi qu'un prix Nobel. Nous ne pouvons plus nous contenter du mot horreur. Il faut aujourd'hui nommer le génocide à Gaza, affirme-t-il. Enfin, à lire cette autre tribune dans le quotidien israélien Haaretz, signé Ehud Olmert, ancien Premier ministre et prédécesseur de Benjamin Netanyahou, « Ce que nous menons actuellement à Gaza est une guerre de dévastation », écrit-il. « Oui, Israël commet des crimes de guerre. Le gouvernement Netanyahou est désormais un ennemi de l'intérieur. Il a déclaré la guerre à l'État et à ses habitants. Il est temps d'arrêter », s'exclame encore Ehud Olmert, « avant que nous ne soyons tous bannis de la famille des nations et convoqués devant la Cour pénale international pour crimes de guerre sans aucune défense valable. Ça suffit.
La revue de presse internationale sur RFI avec Frédéric Couteau.
RFI à Bucarest, 93.5 FM.